Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio RDL et dans le Minimag. Un Minimag aujourd'hui entièrement consacré à une course de buggy tout terrain 1/8 qui aura lieu à l'écurie du lac à Orbourvire le dimanche 10 septembre 2023 à partir de 8h dans le cadre du championnat de Ligue Grand Est thermique et électrique Open Promo. Si vous avez rien compris, c'est normal, moi non plus, mais on a la chance d'avoir deux invités qui vont nous expliquer exactement de quoi il en retourne. Alors nous avons à ma droite Sébastien Fréchard qui est trésorier adjoint de l'écurie du lac à Orbourvire. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Et nous avons aussi Maxime Krebs qui lui est responsable de l'intendance. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Alors comme il disait tout à l'heure, en fait il y en a un qui tient les comptes et l'autre qui dépense. Voilà, c'est un peu ça. Alors le championnat Ligue Grand Est thermique électrique Open Promo. Qui veut se lancer et qui veut expliquer à nos auditeurs de quoi il retourne?
Donc en fait c'est un championnat, donc comme dit le Grand Est, avec 9 courses dans 2 ligues. 1/8, donc c'est l'échelle. Open Promo, c'est les catégories. Donc Promo, les débutants. Open, les pilotes confirmés. Et donc électrique, thermique, ben forcément, y a des moteurs à essence et des moteurs électriques.
D'accord, alors là c'est en tout terrain, buggy, donc 1/8, on a compris, c'est l'échelle. Est-ce qu'il existe d'autres catégories justement? Et pourquoi avoir fait le choix de cette catégorie pour dimanche prochain?
Alors en fait, notre piste permet cette échelle, donc 1/8. En fait, il y a des largeurs de piste bien définies pour chaque catégorie. Donc sur notre piste, on peut rouler en 1/10 ou en 1/8. Mais notre discipline de prédilection, c'est le 1/8 TT, 4 roues motrices.
Alors donc, vous allez participer tous les deux, j'imagine, à cette course. Dans quelle catégorie? Puisque j'ai cru comprendre qu'il y en avait un des deux qui ne roulait pas en thermique.
Oui, du coup, moi, je vais faire la course en électrique. Et du coup,
Et moi, en thermique.
D'accord. Alors, quels sont un peu vos palmarès? Depuis combien de temps courez-vous, par exemple, toi, Sébastien? Explique-nous.
Alors, moi, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. J'ai été une fois champion de ligue en thermique, puisque j'ai commencé en thermique. J'ai eu une petite pause de 3 ans. J'ai repris en électrique. J'ai été champion de ligue aussi en électrique. Donc cette fois-ci en open, en pilote confirmé, et j'ai été vice-champion en champion de ligue en open thermique.
D'accord.
Et dans ton cas, moi ça va bientôt faire 7 ans que j'en fais. J'ai fait il y a 2 ans champion de ligue en promo, et du coup depuis je suis en open et c'est un peu plus compliqué quoi.
C'est beaucoup plus dur, il y a beaucoup plus de concurrence.
C'est un autre niveau.
Et vous m'expliquiez tout à l'heure en off que les jeunes, en fait, sont des terribles concurrents parce qu'ils pratiquent plus, en fait. C'est surtout ça.
Ils ont sûrement plus le temps de pratiquer et ils apprennent aussi beaucoup plus rapidement.
Oui. Et ils courent dans les deux catégories? On les retrouve dans les deux ou
Généralement, ils débutent comme tout le monde en promo et après, ils passent en open. Quoi.
Mais thermique ou électrique?
Après, ça dépend du choix. Il y en a qui roulent, qui font du thermique et de l'électrique. Où il y en a qui décident soit de faire que thermique ou seulement électrique.
Très bien. Alors dans cette course qui se déroulera dimanche 10 septembre, comment ça se passe concrètement? Ça commence à 8h, donc les gens arrivent évidemment plus tôt. Et après, quel est le déroulement d'une compétition comme celle-ci?
Alors on est, nous en général, sur place entre 7h et 7h30. 8h, donc c'est le briefing, donc avec le petit appel des pilotes, vérification, création du contrôle. Et départ pour des essais libres, donc de 10 minutes dans chaque catégorie, suivi des séances de qualification, donc 3 séances de qualification de 5 minutes pour chaque catégorie aussi, et par tranche de 10 pilotes en général. Donc là, on est 21 pilote en électrique et 17 en thermique.
Pour le moment.
Pour le moment. Bon, les inscriptions se clôturent ce soir. Donc,
C'est pas demain? C'est pas le 7?
Ou demain, oui.
Voilà, parce que là, aujourd'hui, on enregistre cette émission le 6.
Voilà.
Et donc, c'est jusqu'à 7 à minuit, il me semble. Voilà.
C'est ça.
Donc, on peut espérer encore, voilà. Peut-être.
Donc, il y aura peut-être. Et puis, la météo est clémente. Donc, normalement, ça devrait le faire.
Alors donc effectivement il y a vraiment de grosses similitudes avec les sports automobiles à échelle normale, on va dire. C'est exactement les mêmes contraintes, c'est exactement les mêmes problèmes en course.
Tout pareil, mais en miniature.
En miniature, voilà. Donc, alors par contre, il y a aussi une spécificité dans le thermique, c'est-à-dire qu'il y a un mécano qu'il n'y a pas en électrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi sert le mécano et pourquoi il n'y en a pas en électrique ?
Alors, je parlais tout à l'heure des essais le matin, l'après-midi, c'est les finales, donc là, c'est un peu plus long. Alors, en électrique, c'est 10 minutes, donc 3 manches de 10 minutes. Par contre, en thermique, on a des demi-finales, donc une demi-finale de 20 minutes et une finale de 30 minutes. Sachant que nos réservoirs ont une autonomie de 5 à 7 minutes, ben forcément il faut faire le plein, donc le plein seul un mécano, donc nous on est en hauteur pour piloter, et un mécano dans la voie des stands ou deux selon le cas pour faire le plein, et donc qui nous indique, qui lui regarde le chronomètre et qui nous indique quand rentrer. Donc bien souvent ben c'est Maxime, mon mécano, qui aide mon père, comme ça ils sont à deux, ça va un peu plus vite, on gagne quelques secondes.
D'accord. Et donc, pas de mécano, par contre en électrique ?
Non, du coup, pas pour l'instant. Ouais. Ils ont déjà fait des tests à faire des finales avec plusieurs batteries. Enfin, changer des batteries pendant la finale. Mais pour l'instant, en course de Ligue ou en championnat de France, il n'y a rien d'officiel.
Donc, vous partez tous avec une batterie chargée et...
Vaut mieux, oui. Oui, mais oui, on part tous avec une batterie chargée et on fait notre finale de 10 minutes.
D'accord. Et... vous n'allez pas au-delà, vous êtes vraiment à sec quand vous arrivez au bout de 10 minutes, ou quelle est l'autonomie à peu près? Vous allez un peu plus loin, j'imagine.
Voilà, après ça dépend de la capacité de la batterie. Mm-hmm. Généralement, on essaye de, vu que ce sont des batteries lipo, il ne faut pas en fait les décharger totalement, sinon ils peuvent gonfler et exploser. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils gardent, ils font des finales de 10 minutes pour pas du coup trop solliciter les batteries.
Et les batteries, en vieillissant, elles ont une autonomie qui est aussi moins performante ?
Ça aussi, oui.
Ça aussi ?
Ouais.
Donc en fait, vous les changez tous les combien à peu près ? Avec une batterie, est-ce que tu fais une saison ?
Oui, c'est facile. Ouais. Après, ça dépend comment on entretient la batterie. Une personne qui va rouler pendant un week-end et rouler pendant 15 ou 20 minutes avec sa batterie et là, chaque fois la décharger, pas entièrement, mais on va dire plus que d'habitude, la batterie s'usera plus rapidement qu'une personne qui va rouler que 10 minutes avec la batterie.
Sur votre télécommande, comment on appelle ça ?
La radio.
La radio, sur la radio.
Oui, ou télécommande, ouais.
Est-ce qu'il y a un témoin de jauge ?
Non, pas. Mais par contre, on peut mettre un minuteur ou un chronomètre dessus.
D'accord, mais c'est tout le temps en fait un peu aléatoire, c'est-à-dire qu'il faut calculer par rapport à l'autonomie théorique.
Oui.
D'accord, ça c'est un peu complexe quand même. Pourquoi avec l'avancée de la technologie, pourquoi il n'y aurait pas une jauge directement sur la radio ?
Après, on a une sécurité sur la voiture, sur le variateur, sur les voitures électriques qui nous fait couper la voiture quand la batterie arrive à un certain voltage. Mais après, comme dit, ça use quand même plus les batteries. En fait, le moins qu'on les décharge, plus que les batteries tiennent dans le temps.
D'accord. Alors après aussi, il y a un problème de pneus. Alors les pneus, c'est aussi un gros budget, visiblement, d'après ce que j'ai compris.
C'est ça.
Expliquez-nous un peu.
Oui, les pneus, c'est un gros budget. C'est pas le plus gros, mais quand même, ça a son poids dans la balance. Sachant, comme je disais avant en off, j'ai sur ma marque, donc j'ai tous les profils de pneus, toutes les gommes, puisque il y a des gommes qui sont prévues pour chaque température. Donc on a des tranches de température de 10 degrés à peu près, et j'ai 110 paires de pneus. Enfin, 110 trains de pneus.
Ouais, donc c'est 440 pneus.
Voilà, ça fait 440 pneus. Bien sûr, j'emmène pas tout en course. J'essaye de préparer à l'avance, puisque maintenant les pistes, on les connaît.
Ouais.
Donc on sait de quoi elles sont faites. Mais bon, j'ai quand même pas mal. J'ai quand même deux sacs de pneus. J'ai 32 choix possibles sur une course.
D'accord. Et sachant qu'au bout d'une course, en tout cas pour une finale...
Alors moi, pour mes finales d'une demi-heure, le train y passe. Et puis voilà, c'est quand même entre 40 et 50 euros les quatre pneus.
D'accord. Est-ce qu'il y a des changements qui s'effectuent aussi entre les essais, les qualifs, en fonction du temps, etc. Ça peut arriver.
Ben oui, du coup, ça sert à ça aussi, les essais, pour du coup faire différents réglages, changer, ben voir quel pneu convient le mieux à la piste. Donc aussi, voilà, aussi à ça, ça sert les qualifs, quoi, pour préparer la voiture pour les finales. Et du coup, oui, on peut changer par jour plusieurs fois le train de pneus.
Et donc forcément, vu la vitesse à laquelle ces bébêtes roulent, on sent la différence quand on change de pneu. C'est on le sent vraiment, quoi.
Après, suivant aussi la journée, s'il fait froid le matin, chaud l'après-midi, si c'est humide le matin, plus sec l'après-midi, il y a plein de choses.
Et après, il y a les événements météorologiques aussi qui jouent.
Hein. Ouais.
Donc, voilà. Et la piste se détériore aussi au fur et à mesure de la journée.
Il y a des passages, on a vu des images tout à l'heure que vous m'avez fait voir, il y a des passages qui sont en synthétique, notamment sur les sauts, des choses comme ça. Pourquoi ce choix ? C'est pour amortir mieux, pour que ça accroche mieux, pour pas qu'il y ait de...
C'est venu à la mode beaucoup pour limiter le travail.
D'accord.
À la base, parce que ben, on en parlait aussi tout à l'heure, le problème c'est le bénévolat. Donc des membres, on a 30 membres dans l'association, mais comme partout, on n'a pas 30 membres qui travaillent. Hein.
C'est sûr.
Donc voilà. Donc, il y a un moment, c'est quand même beaucoup d'entretien, puisque la terre, pareil, faut en rajouter régulièrement. Faut damer la piste, donc ça se creuse. Les voitures, au bout d'une journée de course, les pistes ont énormément souffert. Et surtout en fonction des terrains, nous à Orbourvire on a énormément de chance, on a un terrain qui bouge pas trop, on a une terre qui est assez favorable à ce sport, à la pratique de ce sport, mais malgré tout il y a de l'entretien, donc forcément de mettre des pavés, de mettre des parties en goudron, de mettre des parties en synthétique, ça permet d'atténuer beaucoup le travail et puis après de complexifier la chose, hein, puisque forcément plus on a de revêtements différents, plus le choix de pneus est difficile.
C'est ça, parce que si on passe de terre à du goudron, forcément ça ne réagit pas du tout de la même manière.
Bon, le goudron ça va encore, mais c'est plus du coup le synthétique qui accroche beaucoup plus que du coup la terre.
Et donc, mais on peut les trouver du synthétique dans les virages aussi, où on évite.
Ça se fait de plus en plus.
Ouais, malgré tout, ça se fait aussi.
Oui.
Mais donc sur la terre, on peut imaginer qu'il y ait des dérapages. Sur le synthétique, beaucoup moins, si ça accroche plus.
C'est ça. Si on arrive trop vite dans le virage, on peut vite se retourner du coup.
Ah ouais, si ça accroche, ouais.
Oui.
D'accord. Qu'est-ce que vous préférez, vous, comme surface, en fait ?
Bon, la terre.
La terre,
ouais,
tous,
la terre.
En général.
C'est du tout terrain, donc du coup, c'est prévu pour rouler dans la terre.
Et voilà, si on sort du tout terrain, qu'est-ce qu'il y a comme autre voiture qu'on peut trouver dans ce monde radiocommandé ?
Alors, du coup, on peut avoir de la piste, donc voiture de circuit, donc on roule sur du bitume. Bitume ou moquette, hein, ça peut être du coup intérieur, extérieur. Intérieur, particulièrement l'électrique, forcément. Ou alors, il peut y avoir aussi de la moto. Ou alors, encore une autre catégorie voiture qui est assez récente et assez en vogue en ce moment. Bon, il y a une petite perte, mais quand même encore assez en vogue. C'est le drift, pour ceux qui connaissent. Hein, donc, c'est une discipline qui vient du Japon avec de vraies voitures. Mais ça a été remis à l'échelle 1/10, 1/8.
Donc, pour expliquer ce qu'est le drift, pour des gens comme moi qui ne connaissent rien à ce monde, est-ce que tu peux décrire un petit peu ?
Alors, le but, c'est de faire le circuit le plus rapidement possible, comme une course normale. À la seule différence que, à la place de chercher de l'adhérence avec la voiture, on va chercher à faire des glisses et toujours glisser donc de manière le plus homogène et surtout le plus rapidement possible. Donc, le virage se prend, en fait, en fin de compte, on roule à 90 degrés de la route.
Comme une vraie voiture, en fait, qui roulerait sur de la neige ou sur de la glace.
Voilà, comme une vraie voiture qui roulerait sur de la glace. C'est du trophée Andros, mais sans la neige.
Et est-ce que... Donc, en fait, ouais, c'est quand même... Ça reste une course. Il y a pas... On note pas la qualité de glisse, etc. Il n'y a pas de jury pour...
Si.
Si.
Si, ah, en drift, oui.
Je pose une bonne question là. Oui. Alors,
en drift, oui, c'est exactement comme, en fin de compte, notre échelle est vraiment le dérivé et la copie conforme de ce qu'on peut voir à l'échelle 1, donc sur un circuit de Formule 1 ou enfin dans toutes les catégories de course. Hein, mm-hmm. C'est vraiment la même chose avec les mêmes règles. Pour le drift, tiens, un jury. Et bien sûr le temps, et après ben pour le tout terrain, que ça soit du tout terrain, de la piste, c'est exactement les mêmes règles.
D'accord. Donc le drift, il y a une notation par rapport aux figures, oui. Par rapport à la qualité de glisse. Très bien, on va faire une petite pause musicale. On va écouter tout de suite les Steppenwolf avec Born to Be Wild, et on continue à vous parler de cette course qui aura lieu donc dimanche 10 septembre à Orbourvire, à l'écurie du Lac. On se retrouve de suite.
Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure in whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild.
Voilà, de retour dans ce mini-mag consacré à la course de buggy tout-terrain à l'échelle 1/8e qui aura lieu à l'écurie du Lac à Orbourvire le dimanche 10 septembre 2023 à partir de 8h dans le cadre du championnat Ligue Grand Est thermique et électrique, donc en open et promo. Donc maintenant que je l'ai répété, je pense que maintenant tous les auditeurs ont compris de quoi il s'agissait. On parlait en off un peu des moteurs, notamment pour le thermique, et là on est comme sur une vraie voiture, évidemment, sauf que c'est en beaucoup plus petit. Mais voilà, sur quoi vous pouvez travailler pour améliorer la voiture? À quel niveau elle peut s'améliorer pour qu'elle soit plus rapide, etc. Vas-y.
Alors au niveau du moteur, ben, c'est des moteurs 3,5 cm3 qui permettent d'atteindre une vitesse maxi d'une centaine de kilomètres heure.
Ce qui est quand même pas mal.
Pour ces petites autos, oui. Et donc là, après, on peut déjà faire un réglage de base du moteur. Bon, bien sûr, le ralenti, qu'elle ne cale pas. Mais après, on peut influer sur l'embrayage, sur les pignons, pour que la voiture soit plus coupleuse, donc qu'elle ait beaucoup plus de puissance à l'accélération, ou alors qu'elle soit un peu plus souple, mais par contre qu'elle ait une vitesse de pointe plus élevée. Après, sur la voiture, on peut vraiment jouer comme sur une vraie, comme sur une Formule 1. Avec les amortisseurs, les ressorts, les huiles d'amortisseur, les huiles dans les différentiels, différentes couronnes, différents pignons. C'est vraiment infini et on apprend tous les jours et on s'arrête jamais. Ça va jusqu'à l'inclinaison de l'aileron et de certaines personnes qui percent même des trous dans l'aileron pour augmenter ou diminuer l'appui en fonction des trous percés. Enfin, ça va vraiment très loin.
J'imagine, et en fonction aussi du circuit, parce que forcément, les circuits sont tous différents. Sur la Ligue Grand Est, par exemple, là, vous êtes, il y a combien? Il y a à peu près 9, 10 circuits.
Oui, à peu près 9. Hein.
Voilà. Et donc, ils ont tous leur spécificité, j'imagine.
C'est ça. Donc, chaque réglage sont différents suivant la piste.
Et ça peut justement, d'une année sur l'autre, vous allez changer les amortisseurs, par exemple, pour sauter moins haut, j'en sais rien, pour attirer plus facilement ou...
Bon, après, tout ce qui est amortisseur, différentiel, généralement, peut-être pas à toutes les pistes, mais on va dire régulièrement dans l'année, de toute façon, l'huile, elle s'use avec le temps. Donc du coup, il faut quand même qu'on la change assez récemment, quoi.
Mais le type d'amortisseur, est-ce qu'il y a plusieurs types d'amortisseurs? Est-ce qu'il y a des plus souples, des moins souples, ou est-ce que ça se règle directement?
Ah, ben ça, c'est nous avec l'huile. L'huile ou les ressorts.
D'accord.
Du coup, on a plusieurs jeux de ressorts, des ressorts plus durs et plus souples. Et après, l'huile, ben, suivant la viscosité, on va dire plus épaisse et moins épaisse, quoi. Mm-hmm. Donc, du coup, ce qui nous change, la dureté de l'amortisseur.
Combien pèse une voiture, à peu près?
Très bonne question. Je serais incapable d'y répondre.
Parce que ça va à 100 km/h, mais forcément, il faut qu'il y ait un poids, à peu près.
Ouais, mais là, honnêtement, là, je suis incapable d'y répondre.
Je vois que Maxime est en train de regarder.
Maxime est en train de regarder, il va nous donner la réponse dans quelques instants.
Si tu regardes ton modèle dans le magasin où tu l'as acheté, forcément il y a le poids, oui. J'imagine. Est-ce que justement les voitures électriques sont plus lourdes? Est-ce que la batterie...
La batterie, en fonction de la capacité de la batterie, elle sera un peu plus lourde. Ou après, de base, elles font à quelques grammes près, mais bon, il y en a qui jouent au gramme. À quelques grammes près, le poids, le même poids.
Et elles vont à la même vitesse à peu près, hein, que ce soit électrique,
ça
ou,
soit électrique
on arrive
ou thermique. On est même... en général, les pilotes électriques arrivent même à faire de meilleurs temps qu'en thermique.
D'accord.
Parce que c'est plus brutal, quoi. Enfin, c'est comme les vraies voitures électriques, quoi.
C'est zéro ou un.
Voilà, c'est ça.
à fond ou arrêté.
C'est ça. Et après, pour revenir sur le poids, du coup, la fédération dit comme quoi faut que les voitures fassent au minimum 3 kilos. Et en moyenne, c'est 3,8 kg une voiture.
D'accord, donc en dessous de 3 kilos, c'est pas normal.
C'est ça. On a, du coup, bon, nous, on n'a jamais eu de contrôle de poids, enfin, du poids de la voiture, mais du coup, d'après ce que je viens de lire, la fédération dit comme quoi faut que ça soit minimum 3 kilos.
Alors, pour l'organisation d'une course comme celle de dimanche, justement, est-ce qu'il faut des juges, arbitres, des gens qui sont agréés par la fédération française? Comment ça se passe?
Non, alors en fait, on a tous nos licences,
hein, bien sûr.
Déjà pour être assuré. Après, on a un règlement à suivre, d'où la commission des pilotes qui est créée en début de course en cas de litige. Mais c'est très rare que ça soit utilisé, du moins en ligue. Et puis après, tout le monde connaît le règlement, les journées se passent relativement bien. Il n'y a pas d'enjeu financier, donc derrière, c'est plus nous, on est plus dans le plaisir que dans la compétition, même si on a quand même envie tous d'être devant le copain et de gagner, quoi, forcément.
Évidemment, mais alors justement, il n'y a pas d'enjeu financier, mais après, il y a, au-delà du championnat de Ligue, il y a le championnat de France et encore plus haut, championnat d'Europe, championnat du monde, où là, vous me disiez qu'en fait, à partir du championnat d'Europe, ce sont des professionnels.
Oui, donc là, c'est que des pilotes pros. Donc en championnat de France, il y a quelques-uns qui sont pros.
Ou semi-pro,
on va dire. Semi-pro, parce qu'ils ont des magasins, c'est nos fournisseurs, hein, tout simplement. Mm-hmm. Donc eux, ils sont sur les pistes, ils sont avec leurs magasins, ils peuvent se le permettre, parce qu'ils vont, ils emmènent leur magasin ou une partie de leur magasin sur les pistes et refont de la revente. Parce qu'un week-end dans le championnat de France, c'est vendredi, samedi, dimanche. Il y a 150 pilotes pour 37 en ligue. Donc on imagine bien que tout prend plus de temps. Et une fois qu'on est bien classé en championnat de France, mais vraiment dans le haut, dans les 5 premiers, voire 3 premiers, on peut aller donc en championnat d'Europe. Et là, du coup, on passe pilote professionnel. Et donc là, on roule pour une marque.
D'accord. Donc vous êtes remboursé, vous êtes sponsorisé entièrement.
Sponsorisé entièrement, et donc là c'est les sponsorisés par les marques de pneus, les moteurs, les voitures, les enfin voilà.
Oui, comme
et après
comme
championnat du monde.
Voilà, comme dans les vraies courses automobiles ou dans tout ce qui est sport automobile. Ouais.
C'est ça.
Est-ce que vous avez déjà assisté à des courses comme ça de professionnels? Parce que j'imagine qu'il y a aussi du public pour ce genre de courses.
Oui, oui, j'ai assisté à un championnat de France. C'est beau à voir.
C'est déjà un autre monde.
C'est un autre monde. C'est beaucoup plus professionnel déjà. Mm-hmm. Les gens sont plus dans le réglage. Je sais pas qu'on l'est pas, mais voilà, c'est des réglages beaucoup plus fins. Et on voit que c'est un autre niveau. Hein, ça, c'est pas pour autant qu'on est moins passionné ou voilà.
Bien sûr.
Mais sauf qu'on prend moins le temps et pour certains, on a moins le temps.
Oui, c'est ça aussi.
Et après, pas forcément le budget parce que c'est quand même assez coûteux. Hein,
une saison, ouais. Combien coûte une saison
Une saison, c'est entre 2 et 3 000 euros.
D'accord. Oui, forcément, c'est un budget.
Voilà, sans achat de voiture, en sachant que une voiture, si on veut vraiment débuter pour une saison de compétition, une voiture, ça dépasse les 1500 euros.
D'accord, oui, oui, oui. Ah ouais. Et il y a combien de marques comme ça qui se battent sur le marché? Combien on peut trouver de voitures différentes, de marques différentes?
Bon, on va dire les marques les plus connues, il y en a à peu près 4 ou 5.
D'accord, pas
de
plus
voitures.
Que ça. Ouais.
Après, il y a deux styles de voitures, il y a des loisirs ou du coup, comme les nôtres, pour faire des compétitions. Quoi.
Aussi, mm-hmm.
Mais on va dire, généralement, ce qu'on retrouve le plus sur les pistes, on va dire, il y a 4 ou 5 marques différentes.
Et c'est des fabricants de quel pays, en général? C'est pas la Chine, aussi?
Thaïlande. Il y a un fabricant, il y a des fabricants américains, et puis après, oui, c'est chinois.
Malgré tout, ouais. Il y a des Américains qui sortent un peu leur épingle du jeu. C'est eux qui étaient là avant tout le monde, et puis les autres s'y sont mis aussi, non?
La première marque, c'est une marque japonaise. Hein, donc,
d'accord, oui, mais japonais encore.
Japonais, chinois. On a du japonais, on a du chinois, on a du coréen, et puis de l'américain.
Et en termes de pneus?
On a de la chance d'avoir un français.
Ah, c'est pas un constructeur qu'on connaît, nous, avec nos voitures.
Non, ça
n'a rien à voir.
Mais ils prennent les mêmes gommes ou non? C'est des gommes aussi un peu différentes, j'imagine.
Ouais, ils sont beaucoup plus molles, les gommes.
Ouais.
Ça reste du caoutchouc. Hein.
Sauf sur les drifts, où là, c'est du plastique dur, c'est
là,
ça?
C'est du plastique dur.
Et c'est ce qui permet aussi d'avoir la glisse.
C'est ça.
Pour venir vous voir dimanche, pour donner envie aux auditeurs de venir, qu'est-ce qu'il y aura pour les spectateurs?
Alors, les spectateurs ont accès à tout le circuit. Alors, c'est l'attrait, c'est surtout les sauts. Qui sont assez spectaculaires. On a un virage, un immense virage relevé où la voiture est complètement à la verticale.
D'accord.
Après, on a des sauts. On a un saut qui nous fait décoller à 2 mètres de haut à peu près.
Quand même, ouais.
Donc c'est toujours impressionnant. Et puis on a un enchaînement de 4 bosses que certains pilotes passent en une fois, donc ça fait quand même un vol de plus de 4 mètres. avec la voiture et à une assez haute vitesse, donc c'est assez
impressionnant.
Ouais.
Ah oui, donc c'est en plus à Bourvière, il y a un circuit qui est vraiment comment dire
dédié pour ça.
Dédié pour ça. Ouais, c'est un bel espace plein entouré de verdure. Donc voilà, donc c'est rue de l'Étang, c'est en direction de la PP, c'est juste avant.
Est-ce qu'il y aura à boire et à manger ?
Il y aura à boire et à manger, il y aura ce qu'il faut.
Ça, c'est important quand même, parce que...
Il y a une petite restauration pour midi, il y aura des pâtisseries l'après-midi, il y a... Voilà.
D'accord, et ça se termine vers quelle heure à peu près ?
En général, la remise des prix, alors ça, c'est toujours pareil, c'est en fonction des pilotes. Maintenant, on verra combien s'inscrivent encore, mais ça devrait se terminer entre 17 et 18 heures.
Alors, pour s'inscrire, il faut faire comment pour, si on a des... En même temps, ça m'étonnerait que dans nos auditeurs, les gens qui pilotent ne vous connaissent pas. Donc, je pense qu'ils sont inscrits. Mais sinon, on peut quand même donner les...
Pourquoi pour s'inscrire, pour participer à la course ?
Ouais.
Bah, déjà, il faut avoir une licence à la fédération.
Oui, forcément.
Et après, c'est sur le site internet directement de la fédération pour s'inscrire aux courses, quoi.
D'accord. Et toutes les, sinon, tout ce qu'il y a à savoir sur la course de dimanche, on peut aller voir sur votre page Facebook, notamment.
C'est ça, Écurie du Lac.
Écurie du Lac, hors Bourvire. Eh bien, messieurs, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de votre passion et puis de ce bel événement. Et puis, on vous souhaite évidemment qu'il y ait beaucoup de monde. Et puis, on vous souhaite à vous de gagner. Pourquoi pas ?
Ouais, on va essayer.
Il y a des jeunes chez vous qui sont plus forts que vous déjà ?
Pour l'instant,
jeune, on va dire non, mais.
Jeune, non. Bon, un peu moins jeune, Maxime. Quand il est arrivé, je lui donnais des conseils. Maintenant, il m'a dépassé.
Mais vous avez un petit jeune, Timéo, c'est ça ?
Et on a un petit jeune, Timéo, qui progresse. Ça fait 2 ans qu'il en fait. Là, il progresse vraiment, vraiment à une vitesse phénoménale. Et je pense que d'ici un an et demi.
Il dépassera.
Il nous dépassera, enfin, il sera au moins à notre niveau, quoi.
D'accord. Et puis après, il ira manger les autres.
Et puis après, il ira
dans les autres ligues.
Ah bon, on lui souhaite.
On lui souhaite.
En tout cas, encore merci beaucoup. Et puis toute la réussite que cet événement mérite. À bientôt.
Merci beaucoup.
Merci.